Qu'est-ce qui vous reste comme trace?
C'est une véritable épopée, donc c'est des souvenirs très marquants d'une période très particulière, très exaltante, par certains côtés. On a participé avec Radio Libre 44 à Nantes, la région nantaise, au tout début des radios libres qui sont devenues locales après, par la suite, mais on était au tout début d'un mouvement, en tout cas pour la France. Mais si on veut être plus exact, il faut quand même rappeler qu'on se situe dans un contexte européen et international. En 1977, l'année de création de la Radio Libre 44, avec donc des expériences de radio libre, radio pirate, plus ou moins tolérées, d'abord en Italie, toute première en Italie, et puis les radios anglaises, Radio Caroline notamment, qui est la plus connue, il y en a eu d'autres, qui se situaient dans les eaux internationales, mais qui émettait, qui arrosait toute l'Angleterre et tout le nord de la France d'ailleurs. Moi-même, j'arrivais à la capter aussi sur Nantes, à l'époque où j'habitais. Voilà, donc on se situe dans un contexte de développement des radios libres, d'émergence de ce phénomène en 1977, quand à Nantes, on s'organise à une poignée pour monter la première radio libre de l'Ouest, au moins de l'Ouest de la France, puisqu'il y avait parallèlement Radio Verte à Paris, et Radio Verte Fessenheim dans l'est de la France qui apparaissent dans la même période.
C'était l'envie de vous inscrire dans ce mouvement-là.
C'est en fait le ras-le-bol du monopole d'État sur la radiodiffusion. Parce que maintenant, je pense que les gens ont du mal à imaginer, notamment les jeunes, que ben, on était privé de liberté totalement sur la radio. On n'avait droit qu'à des radios d'État officielles et puis des radios périphériques RTL, Europe 1, Sud Radio, mais qui voulaient faire de l'argent essentiellement et de la publicité, qui étaient tolérées par les pouvoirs publics, ce qui ne devait pas beaucoup déranger. C'était à peu près tout. Donc il y a eu cette volonté de dire on prend la parole, puisqu'on l'a pas, ben on la prend. Mais on se donne les moyens d'y arriver. C'est surtout ça au départ. Après, on s'est aperçu que ça pouvait être un soutien aux luttes locales. Et on était quand même dans la grosse bagarre contre les projets de centrale, puisque Giscard d'Estaing est arrivé en 1974 et a lancé un nouveau programme, un grand programme d'électrification nucléaire de la France, un petit peu comme Macron veut relancer aujourd'hui. Et ça, bien sûr, ça a suscité des réactions fortes sur place, au Pèlerin, à Nantes. Et puis après, il y a eu le projet au Carmet aussi qui a suivi. Mais nous, c'était surtout sur le Pèlerin, où on était en relation avec les gens qui luttaient sur place, et on leur a mis à disposition notre émetteur pour émettre sur place, dans l'illégalité, bien sûr, hein, puisque tout ça se fait dans l'illégalité. Mais l'illégalité assumée, c'était de la désobéissance civile, on va dire, avant l'heure. Donc, on a soutenu par différentes émissions le mouvement et on l'a fait après pour les chantiers du Bigeon, qui étaient en perte de vitesse, où c'était un peu la fin des chantiers navals à Nantes. Il y a eu des mouvements sociaux qu'on a soutenus en leur mettant à disposition notre émetteur. Alors ça, c'est un autre aspect aussi du contexte de l'époque, c'est que si on a pu faire ça, c'est parce qu'on a des émetteurs qui se miniaturisent. On a l'émergence du système de fréquence FM et qui nous permet de nous doter d'appareils d'émission, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, bien sûr, avec des émetteurs grandes ondes ou ondes moyennes. Mais la bande FM va permettre de s'équiper clandestinement, faut le dire d'abord, en Italie, pour avoir des petits émetteurs portables qu'on emmenait avec nous et qu'on disposait dans les endroits qui nous semblaient intéressants pour émettre. Toute hauteur, tout immeuble un peu haut nous intéressait, on repérait même les églises. Alors bien sûr, on émettait de façon irrégulière, hein. C'était 2 à 3 heures par semaine au départ. C'était vraiment un peu du bricolage, mais ça avait une portée symbolique forte, puisqu'on montrait qu'on était capable d'émettre, malgré la réglementation répressive, j'ai envie de dire, qui était à l'époque appliquée sur la radiodiffusion en France.
Un équipement léger.
Oui, tout petit, oui. Qui, bien sûr, ne portait pas très loin, donc on était obligé de ruser un peu. C'est pour ça que on avait émis au départ tout près des rédactions des journaux Presse-Océan, Ouest-France, pour que au moins eux nous entendent et relayent notre action. Mais on se marrait bien quand même, hein. Il faut dire que c'était sérieux, mais on se marrait bien. On était très jeunes d'ailleurs, la plupart, nous n'avions plus une vingtaine d'années. On était sportifs et on savait grimper sur les toits. Alors forcément, on n'était pas beaucoup écoutés, il fallait vraiment nous capter au bon moment. Mais on savait qu'à terme, cette action aurait une portée, d'abord symbolique, et puis après une portée qui pourrait être suivie par d'autres exemples. C'est ce qui s'est produit, hein, puisque L'exemple des premières radios pionnières a été suivi par beaucoup, beaucoup d'autres dans les années 80 et après les années 80.
Concrètement, vous étiez équipé comment? Les émissions, vous les diffusiez au pied de l'émetteur?
C'est ça, oui, parce qu'on n'avait pas de studio, on n'avait pas de moyens, on avait juste un petit magnétophone à cassette, comme il y avait à l'époque. Donc on enregistrait nos émissions sur la radio cassette, qui était branchée directement sur l'émetteur, et l'émetteur était branché à une antenne qui était fixée à un manche à balai. On n'avait pas de moyens, en fait. Donc on faisait notre propre investissement personnel, et en plus on n'était pas formés, donc on ne connaissait rien à la radio. Donc on s'est formé complètement sur le tas, aussi bien sur le plan de la technique que sur le plan de montage radio, que sur le choix des émissions, que sur... Enfin bref, il y avait tout à créer pour nous. C'était une période pionnière, donc tout était à faire.
Et au début, vous étiez quelques personnes et le groupe s'est au fur et à mesure agrandi.
Alors on était au départ, oui, 4-5, guère plus, mais on pouvait pas tellement s'ouvrir parce qu'on était quand même recherché. Il faut dire qu'on était à la fois recherché et brouillé. C'est-à-dire que quand même, l'État les prenait au sérieux, même si nous, on était des tout petits. Mais ils nous prenaient au sérieux puisqu'on avait quand même droit à des filatures, on avait droit à des brouillages, au début de façon épisodique et après systématique. Donc on essayait d'éviter le brouillage en émettant sur plusieurs fréquences en même temps. Pour nous, c'était compliqué quand même, point de vue technique, hein, ça nous obligeait à avoir deux fréquences. On arrivait à passer, mais des fois on passait pas. À la fin, on passait plus d'ailleurs. À la fin, ils nous brouillaient, mais alors totalement, complètement. Et on sentait les taux qui se refermaient de plus en plus sur nous. D'ailleurs, ils ont failli nous choper. Une fois, on les a croisés dans le couloir de l'immeuble d'où on venait d'émettre et on a failli les choper. À 2 minutes près, ils nous arrêtaient et ils confisquaient le matériel. Eux, ils savaient à peu près qui on était. Nous, on savait à peu près qui ils étaient. Mais il fallait qu'ils nous prennent sur le champ, hein, pour avoir la procédure légale. Il fallait qu'ils nous prennent en flagrant délit. Et là, c'était trop tard pour eux. Voilà, c'est pour situer l'ambiance.
Vous risquez quoi? Une saisie de matériel et puis...
Alors, saisie de matériel, enfin, théoriquement, on risquait plus, on risquait de la prison, on risquait de la prison, des fortes amendes et confiscation du matériel. Nous, on n'a jamais été arrêtés, on a toujours réussi à nous faufiler entre les mailles du filet, mais pour ceux qui ont été arrêtés, bon, c'est souvent limité à des simples amendes. Confiscation du matériel et amende. Ils n'ont pas osé aller plus loin parce que symboliquement, ça faisait quand même pas très démocratique d'empêcher des gens, des citoyens de s'exprimer parce que nous, on demandait simplement à pouvoir s'exprimer librement sur la bande FM. On n'était pas des subversifs terroristes, on demandait simplement à pouvoir nous exprimer. Donc en France, quand ils ont investi certains studios, ils l'ont fait à certains endroits. Un petit peu plus tard, à la fin des années 70, il y a eu confiscation du matériel et des amendes qui parfois étaient un peu symboliques parce que la justice n'a pas toujours suivi les réquisitions du procureur.
Est-ce que vous aviez des retours d'auditeurs?
Non, parce qu'on ne pouvait pas donner de coup de fil, enfin, on ne pouvait pas nous appeler, donc on n'avait pas beaucoup d'idées de savoir qui nous écoutait. On n'a pas de numéro de téléphone, on n'avait pas de mail. D'abord, les mails n'existaient pas à l'époque, pas de site internet, ça n'existait pas. Donc les retours, c'était compliqué de savoir si on avait été entendu ou pas. Je pense que peu de gens nous ont entendus à l'époque, parce qu'il fallait vraiment connaître l'heure de l'émission. Et en plus, on n'arrosait pas tout Nantes, hein. On n'arrosait qu'une partie de Nantes. À l'époque, on avait des puissances qui étaient faibles, c'était quelques watts. Après, avec Radio Atlantique, on est passé à plusieurs centaines de watts, mais nous, c'était quelques watts. Bon, je pense qu'on essayait de faire passer l'info, mais l'auditoire devait être faible. Bien sûr, on avait conscience qu'on touchait peu de monde, mais ça nous importait de montrer qu'on ne se résignait pas, parce qu'on était quand même persévérants. On a émis de 77 à 81, et 81, on est devenu Radio Atlantique. Et là, on était du coup légalisés. Mais on a quand même été 5 ans à émettre avec des petits moyens, avec beaucoup de difficultés et avec un auditoire sans doute bien restreint. Mais on savait qu'on était dans le sens de l'histoire quelque part. On avait le sentiment que la bande FM allait bientôt exploser et qu'elle allait s'ouvrir aux radios libres, aux radios locales. C'était une question de temps.
Vous n'avez pas pratiqué de l'affichage sauvage pour vous faire connaître?
Alors, si, on avait quand même des tracts qu'on distribuait. On avait quelques documents comme ça qu'on distribuait dans les boîtes aux lettres avant l'événement, parce que c'était un événement ponctuel, hein. C'était à peu près une fois par semaine, par affichette, par des médias locaux. Il y avait quand même quelques médias alternatifs, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait l'APL notamment, après il y a eu le Canard de l'Antabrest, mais c'était déjà plus tard, ça nous concernait moins. Non, les moyens de faire passer l'info étaient compliqués, étaient difficiles. Après, il y avait par les réseaux militants, de bouche à oreille essentiellement.
Et au niveau du contenu des programmes...
C'était une radio militante, une radio de soutien aux luttes, c'est comme ça qu'on se définissait, ce qui nous concerne, hein. On faisait des émissions avec des interviews. Donner la parole aux autres, hein. C'était pas tellement notre parole qui comptait, c'était la parole des autres. la parole de ceux qui agissaient, qui luttaient.
Une sélection musicale pour promouvoir des artistes qui n'avaient pas d'antenne ailleurs.
La musique, non, on ne pouvait pas se permettre parce qu'on n'avait pas assez de temps à accorder à la programmation musicale. On en mettait un peu, on mettait quelques, on pouvait pas parler non plus pendant une demi-heure non-stop, donc il y avait quand même des pauses musicales, mais c'était pas notre préoccupation. Tout ça est venu après avec Radio Atlantique, où il y avait des émissions musicales qui sont mises en place.
Quel type de soutien avez-vous eu, y compris des soutiens politiques?
On était un petit peu des freelances, hein. On n'avait pas de soutien affiché parti politique. C'est pas comme, enfin maintenant j'habite à Brest où il y a eu Radio Brest Atlantique, mais qui était une radio pirate, on va dire aussi, mais qui était soutenue activement par le Parti socialiste et qui émettait directement de la mairie de Brest. Ça a été court, ça a été juste l'année 80, mais ils avaient un soutien politique affirmé. Ça a été le cas d'un certain nombre d'autres radios, des radios soutenues par la CGT, mais sur le plan syndical, dans d'autres régions de France. Il y a eu des radios anarchistes qui ont été soutenues par la Fédération ou d'autres.
Est-ce que vous avez une anecdote qui vous revient spontanément pour nous faire partager un petit peu la vie de pirate?
Bah, c'est-à-dire que maintenant le temps a passé, plus de 40 ans, donc les souvenirs se sont un peu estompés. Et puis après, il y a eu d'autres épopées. Il y a eu Radio Atlantique, qui est une autre histoire, mais bon. Moment fort aussi. Non, là, ce qu'on peut dire, c'est que c'était au-delà des ambitions qu'on avait de briser l'étau de l'État sur la radio. C'était surtout une histoire d'amitié aussi. C'est important de le dire, c'est que c'est des amis qui se sont retrouvés, qui se sont trouvés d'abord au départ, qui pendant des années, un petit peu au départ dans l'indifférence, parce qu'il faut dire qu'on démarrait de rien, qu'on était audible difficilement et qu'on n'avait pas de moyens. Donc, ça forge le caractère. Il fallait se lever parfois très tôt le matin pour aller positionner le matériel sur un toit l'hiver comme l'été. Il fallait faire attention à ce qu'on faisait. On n'avait surtout pas envie qu'on nous pique le matériel, qu'on nous confisque le matériel, parce que c'est un matériel qui était quand même compliqué d'avoir. Il fallait aller chercher en Italie. Et ce matériel, nous, on avait été le chercher sur place, donc c'était quand même assez compliqué. Il fallait passer par les bons réseaux. Quand même, ça coûtait quand même un peu d'argent, on n'était pas soutenu. Hein. Donc tout ça a forgé une solidarité entre nous. Et puis, vous voyez, on a toujours des contacts près de 50 ans après. On est toujours en relation parce que ça a été un moment particulièrement fort dans notre vie. On avait le sentiment d'être utile pour les autres, d'être précurseur, mais utile parce que notre combat, il nous semblait juste et justifié. Et c'est pour ça qu'on a tenu quand même toutes ces années. Alors après, ça a été Radio Atlantique, où une partie de l'équipe de Radio Libre 44 s'est retrouvée. Mais là, on est passé dans une autre histoire, on va dire. Une autre histoire.
Merci à Christian Bucher, l'un des pionniers de la radio libre en Loire-Atlantique, pour sa participation à ce programme.